Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes le mardi 19 octobre 1943 à Montpellier. Laure Moulin est seule dans l'appartement qu'elle partage avec sa mère au 21 de la Grand Rue. Il est 12h30 lorsqu'elle entend frapper à la porte. Les coups sont secs, répétés. La sœur du résistant Jean Moulin, elle-même agent de liaison pour la résistance, s'inquiète. Est-ce la Gestapo? Une perquisition? Une arrestation? Elle ouvre. C'est un policier allemand. « Je viens annoncer à Madame Blanche Moulin la mort de son fils Jean », assène-t-il. Le sol se dérobe sous les pieds de Laure Moulin. Son petit frère? Mort? Mais de quoi? L'Allemand lui dit là que le décès est dû à une paralysie du cœur pendant un transfert. Laure Moulin sait bien que c'est impossible. Jean n'est pas cardiaque. Elle imagine les supplices qui ont dû être infligés à son frère adoré, elle qui le soutient dans son activité de résistant depuis la première heure. Laure Moulin est née le 3 décembre 1892 à Saint-Andiol, un village proche de Béziers, dans une famille profondément républicaine. Elle a 7 ans quand son frère Jean vient au monde et immédiatement la grande sœur le prend sous sa protection. En 1915, elle s'inscrit à la faculté des lettres de Montpellier et bientôt son frère la rejoint pour faire du droit. Étant l'aînée, je veillais discrètement sur lui, révèle-t-elle. Laure se souvient aussi des déboires de son cadet en pleine Première Guerre mondiale, comme cette fois où Jean et ses jeunes amis déambulaient dans les rues de Montpellier et avaient été pris à partie par une vingtaine de soldats ivres qui les traitaient de planqués. Quelques coups avaient fusé, mais Jean était rentré indemne. Laure décroche sa licence et devient professeur d'anglais. De son côté, Jean Moulin est nommé en février 1922 chef de cabinet du préfet de Savoie à Chambéry. La grande sœur redouble d'attention pour que l'installation du jeune homme qui a alors 22 ans se passe au mieux. Elle lui achète une valise et des vêtements adaptés aux rudesses de l'hiver montagnard et lui expédie des colis de nourriture. Jean lui fait parvenir de la laine savoyarde qu'elle transforme en pull tricoté à la main avant de lui renvoyer le paquet. En 1926, Laure Moulin se désole de voir Jean épouser Marguerite Cerruti, avec laquelle elle n'accroche pas vraiment. Pourtant, c'est elle qui conseille son frère à propos des invités de la liste de mariage. « Je compte sur ton tact pour éviter de froisser les susceptibilités », écrit-il dans une lettre. Fait rare pour l'époque, Laure Moulin reste, quant à elle, célibataire. L'élégante jeune femme, brune, a bien dû avoir quelques prétendants, mais elle affirme son indépendance. Titulaire du permis de conduire, ce qui est encore rare pour une femme à l'époque, elle est tout entière tournée vers sa carrière, ses amis, ses parents et bien sûr son frère, qui entame une brillante carrière politique. En janvier 1939, Jean Moulin est nommé préfet d'Eure-et-Loir, à Chartres. Mais la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée des nazis auxquels il s'oppose fermement met fin à son ambition. Aidé par sa sœur, il quitte clandestinement la France pour rejoindre Londres, où il s'engage dans les forces françaises combattantes et rencontre le général de Gaulle en personne. « Comment est-il ? » lui demande Laure, lorsqu'il vient secrètement lui rendre visite à Montpellier début janvier 1942. « C'est un très grand bonhomme, » lui répond Jean Moulin. Grâce à son frère, Laure découvre les arcanes de la guerre, les coulisses des services secrets de la France libre. Jean Moulin est le délégué personnel du général de Gaulle en France. Il a été chargé d'unifier la résistance. Il montre alors, empli de fierté, les documents secrets qui en attestent. Un ordre de mission sur microfilm dissimulé au fond d'une boîte d'allumettes sous le ruban de son chapeau. Reste à cacher ces documents ultra-sensibles. Montant sur une haute échelle, nous les glissâmes sous un morceau de tapisserie décollé tout près du plafond, précise Laure Moulin, qui se retrouve de fait résistante. Dans la foulée, elle reçoit une formation accélérée au codage pour décrypter les messages radio envoyés par Londres. Ce travail est titanesque et il n'est pas rare que Laure Moulin y passe ses nuits. Vers la mi-janvier, son frère l'envoie en mission. Laure doit localiser un opérateur radio parachuté au-dessus des Alpilles et dont on a perdu la trace. Elle se rend à Toulon pour rencontrer le banquier résistant qui devait héberger l'agent disparu, mais elle est plutôt mal reçue. « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? » Laure Moulin ne peut dire son nom. Elle explique qu'elle a fait plus de 300 kilomètres pour venir, mais que le jeune homme court un grand danger si elle ne peut pas le joindre. Son interlocuteur refuse de l'écouter, la questionne pour chercher à lui tirer des informations. « Est-ce que le jeune homme a été parachuté ?» Laure Moulin ment. Elle prétend ne rien savoir. Le banquier insiste. Il pourrait rendre service à cet agent en le présentant au préfet maritime qui est ses amis. Laure Moulin comprend alors que son hôte entretient avec le régime de Vichy des rapports ambigus et que l'agent envoyé par Londres a préféré s'éloigner. Prudente, elle décide de l'imiter. Raccompagnée par l'épouse du banquier, elle tente sa chance une dernière fois et chuchote. « Vous pouvez bien me le dire, vous, où il est ?» La dame lui confie qu'il est caché au village de Bargemont. « Tu as réussi », la félicite son frère Jean Moulin, qui ne cesse d'aller et venir sous couverture. Mais en juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile et l'on parle aussi d'un prochain débarquement en France. Tout irait pour le mieux si Jean n'était pas silencieux depuis près d'un mois. Laure Moulin apprend que Jean a été arrêté à Lyon, puis transféré à Paris. On imagine sa terreur à l'annonce de la nouvelle. Le niveau de responsabilité de son frère en fait une énorme prise pour la Gestapo. Elle sait que Jean ne parlera pas et qu'il sera torturé. Sans attendre, Laure Moulin prend un train pour la capitale. Il faut imaginer le Paris d'alors, teinté de vert de gris par les colonnes de soldats nazis. D'immenses oriflammes à croix gammées s'étendent sur les monuments. Les places et les boulevards sont hérissés de panneaux de signalisation en allemand. Laure se met en contact avec les amis résistants de Jean Moulin. Comment savoir où son frère est détenu ? Est-il encore en vie ? Jean Moulin œuvre sous couverture. Son nom de code est Max. Laure ne sait pas si son identité réelle a été découverte et elle n'ose pas aller demander des renseignements à l'ennemi. Le 19 octobre 1943, un policier allemand frappe donc à la porte de son appartement montpelliérain pour lui apprendre la terrible nouvelle. Jean Moulin est mort. On refuse de lui donner des précisions sur les conditions de cette mort, ni même le lieu où se trouve le corps. Comme il n'y a pas non plus d'avis de décès, Laure Moulin conserve le fol espoir que Jean soit toujours vivant, prisonnier quelque part, mais vivant. Dès la fin de la guerre, elle part à sa recherche. Mais la découverte d'une urne contenant les cendres de Jean Moulin confirme son décès, des suites des tortures nazies. À partir de là, Laure ne cesse de réclamer justice pour son frère. Avec Antoinette Saxe, la dernière compagne de Jean Moulin, elle enquête sans relâche pour retrouver le traître qui l'a dénoncé. Très vite, un nom émerge, celui de René Hardy, un résistant incriminé par divers documents de la Gestapo, le mentionnant comme agent double. Malgré plusieurs preuves accablantes et deux procès, René Hardy ne sera jamais condamné. Pour réparer cette injustice, Laure Moulin lutte sans relâche à faire connaître l'action de son frère. En 1964, l'entrée au Panthéon de Jean Moulin concrétise tous ses efforts. Jusqu'à sa mort, survenue le 31 décembre 1974, elle a sillonné la France pour multiplier les interviews et inaugurer stèles, rues ou mémoriaux à la mémoire de Jean Moulin. Laure Moulin n'a jamais cherché la gloire. Mais grâce à elle, le nom de son frère est resté dans l'histoire.